Alors bonjour, mesdames et messieurs. Du coup, on se trouve dans une situation où on n'a pas de modérateur. Donc,
Pour se
on a décidé
battre.
de s'animer nous-mêmes. Donc, on se commence par se présenter.
Oui, exactement, ça
Voilà.
me paraît très bien.
Moi, comme la personne la plus modeste, je m'appelle Dimitri Glukowski. Je suis écrivain science-fiction. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Métro 2033.
T'en prie. Moi, je m'appelle Jean-Claude Bologne. Je suis auteur d'essais, de romans et de dictionnaires.
Eh ben non.
Et
Mais
je suis ici au
voilà.
nom de la Société des gens de lettres, qui s'occupe beaucoup du numérique pour l'instant.
Et je m'appelle Fabien Velman, je suis scénariste de bande dessinée. Essentiellement, j'ai un peu fait de dessins animés. J'en parlerai parce que de fait, il y a des dessins animés sur lesquels j'ai travaillé qui se sont retrouvés sur Internet et que ça leur a donné plus de popularité. Et j'appartiens aussi au SNAC, qui est un syndicat dans lequel il y a un groupement d'auteurs de bande dessinée. C'est-à-dire que je représente aussi un peu ici donc ces dangereux gauchistes syndiqués que sont les auteurs de BD depuis 3 ans à peu près. Il y a un syndicat d'auteurs de BD depuis 3 ans. Donc j'en parlerai aussi un peu parce que cette question du numérique est assez présente en ce moment dans les débats entre éditeurs et auteurs.
C'est toi qui modères? Donc bonjour, moi je m'appelle Olivier Girard, je suis éditeur, je dirige les éditions du Bélial et la revue Bifrost. Voilà, une petite maison d'édition qui existe depuis 15 ans et on vient de lancer notre plateforme numérique au mois d'août dernier. Voilà.
Moi je m'appelle Jean-Claude Dugnac, donc comme je suis arrivé en dernier, c'est donc moi qui modère. Et je suis écrivain et je suis également intéressé par le livre numérique parce que j'ai fait un certain nombre d'expérimentations dessus et j'essaie de convaincre justement un certain nombre de gens de s'y lancer. Et moi-même, j'ai mis un certain nombre de mes livres numériques, en particulier américains, sur les plateformes de vente type Amazon.com et autres aux États-Unis. Voilà. Et c'est à ce titre-là qu'on va essayer d'attaquer le problème. Alors, vous avez tous été amenés à parler, bon, à avoir affaire à la notion de numérique, qui est une chose extrêmement importante. Bon, je me permets de résumer très rapidement un certain nombre de choses. En France, on ne le mesure encore peut-être pas parce que le nombre de liseuses que vous voyez dans le métro est relativement faible. Je vous garantis qu'à New York, ce n'est pas le cas. Je vous garantis aussi qu'aux États-Unis, un nombre assez phénoménal de livres. Il y a plus de 15% des livres vendus aux États-Unis qui sont vendus sous forme numérique. Et je peux vous dire qu'en France, un de mes amis vendeurs Fnac m'a dit que la liseuse était considérée par la Fnac comme étant un produit d'appel, un produit phare, qui allait être un cadeau de Noël pour cette année. Donc ce qu'on vit déjà aux États-Unis depuis un certain temps, on peut s'attendre en France à l'avoir d'ici 1 an ou 2, c'est-à-dire que le mode numérique, le mode de vente numérique, je vends un fichier que je lis sur une liseuse, va complémenter et peut-être d'une certaine façon agresser le mode, entre guillemets, habituel de vente d'œuvres de livres, que ce soit de livres, que ce soit de la bande dessinée, enfin de l'œuvre en partie écrite, qui était d'habitude sur un support papier. Voilà. Donc on a ici un certain nombre de gens, sachant que certains, comme mon camarade Olivier ici, réagissent en tant qu'éditeur en disant je lance une plateforme, on va en discuter. D'autres, en tant qu'écrivain, se disent j'ai peur peut-être pour mes droits ou au contraire j'ai envie de renégocier un certain nombre de choses. D'autres disent au contraire, j'ai peur du piratage ou j'ai peur de la manière dont les choses vont se passer. D'autres, en tant que libraire, disent, moi, ça va me mettre au chômage. Toutes ces questions, on va essayer de les aborder. On va essayer de savoir les différents points de vue qui se présentent. Et de toute façon, même si ça n'est pas tout de suite, c'est dans un futur relativement proche. Est-ce que je pense qu'on est tous d'accord avec ça sur ce point-là?
Très bien
D'accord.
résumé.
Eh bien, écoutez, à partir de là, alors il faut savoir aussi, pour les gens que ça intéresse, qu'il y a des tas et des tas d'articles et de blogs sur le sujet, y compris des façons de faire. Si un jour vous avez envie de mettre vous-même votre livre sous forme électronique, ben, il y a des tutoriels gratuits qui peuvent vous expliquer comment faire et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, un des problèmes du numérique, c'est que ça peut être plus facile que ce qu'on croit. Pas toujours, mais ça peut l'être. Alors je vais commencer, écoutez, je vais faire dans l'ordre pratique. À ma droite, donc j'ai un éditeur qui, donc par définition, publie des livres, travaille avec une chaîne du livre qui est le distributeur, le libraire, enfin les gens habituels, et qui en même temps, pour un certain nombre de ses livres, crée une plateforme numérique et donc fait des choix. Et ces choix, ça a été quoi et pourquoi les as-tu faits?
D'un point de vue littéraire, tu veux dire
Non, d'un point de vue, par exemple, tes prix, ton DRM et tout ça.
Ah oui, alors donc nous, on a, comme je vous le disais, on a lancé une plateforme numérique au mois d'août dernier, qui intègre petit à petit notre catalogue papier à la vente en numérique via cette plateforme. Nous, on a fait le choix de vendre les fichiers numériques sans DRM. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des DRM. Il y a des gens qui sont sans doute mieux placés que moi. C'est un codage, en fait. C'est quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout un technicien. Hein, donc...
DRM, ça veut dire Digital Rights Management. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui gère tes droits digitaux et qui empêche les gens de faire n'importe quoi avec, de les copier d'abord. Quelquefois de les imprimer, quelquefois même d'en extraire des choses pour le faire ailleurs. Enfin, c'est un certain nombre de verrous. Ce sont des verrous numériques, ce sont des verrous qui ont été mis en place en particulier par la société Adobe pour rassurer les gens, à l'image de ce qui s'est passé en musique et pour les DVD de musique et de films. Et il faut savoir que ça fait beaucoup rigoler les informaticiens un petit peu experts sur le sujet, parce que le ratio en ce moment, c'est de dire que il faut un jour pour craquer une protection qui a mis un an à se développer. Donc, si vous y consacrez 5 ans, ben, vous avez gagné une semaine devant vous. Voilà, c'est à peu près le ratio. Mais ça n'empêche pas les gens de le faire.
Donc voilà, donc nous, on a décidé de commercialiser des fichiers numériques donc sans DRM, parce qu'on considère que de même qu'on peut prêter un livre papier à un copain, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose sur un fichier numérique, finalement. En plus, effectivement, comme le soulignait Jean-Claude, ça a tendance à agacer les gens, donc les gens vont avoir tendance à essayer de craquer ces codages. Et troisièmement, aujourd'hui, ça pose des problèmes techniques quand on importe un fichier protégé par des DRM dans des liseuses. Donc nous, on voit des courriers qui circulent tout le temps, de gens qui ont des vrais soucis avec ça. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Nous, le deuxième point, on a décidé de vendre les ouvrages à un prix qui nous semblait cohérent. Donc, c'est-à-dire qu'on a une politique de prix, grosso modo, nous, un livre papier vendu chez nous, c'est entre 15 et 20 euros. Un fichier numérique sera vendu entre 5 et 9, 10 euros. On a un tout petit catalogue là, en numérique, hein. C'est vraiment le début, ça existe, comme je vous disais, depuis fin août. On a commencé par mettre deux livres, enfin, je vous raconte un tout petit peu l'historique très très vite pour qu'on voit tout de suite de quoi on parle. On a commencé à mettre en ligne deux livres, deux romans en numérique, deux romans français. Alors pourquoi français? Parce qu'on a eu des soucis de droit, enfin, on en reparlera sans doute après en termes de négociations avec les agents américains, mais enfin tout ça c'est en train de se résoudre. Donc deux livres français au mois d'août. On a commencé par ne pas mettre de prix. C'est-à-dire qu'on a laissé les gens mettre le prix qu'ils voulaient sur le fichier, y compris le prendre gratuitement s'ils voulaient. Quoi. Tout ça pour nous permettre un petit peu de cibler, voir quel était ce qui motivait les gens, ce qu'ils étaient prêts à mettre comme argent sur un fichier numérique. Donc on a fait ça pendant une quinzaine de jours. Enfin, je parle sous le contrôle de Clément Bourgoin, qui s'occupe en fait du numérique au Bélial, qui est là au premier rang. Donc il me reprendra si je dis des bêtises. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, on a vendu à peu près autant de fichiers payants, donc vendus, que de gens qui l'ont téléchargé gratuitement. Mais au bout de, donc là maintenant, août, septembre, octobre, donc ça fait à peu près 3 mois qu'on a lancé ça. On s'aperçoit aussi qu'au moment où on parle, nos plus grosses ventes en termes de quantité, c'est quand même 90 exemplaires. Voilà. Donc il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un train qui part, très manifestement, il se passe des choses. Donc nous, on a décidé de monter dedans. Pour l'instant, le train, en tout cas en France, il avance tout doucement, en dépit de ce qu'on veut bien nous dire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, le numérique, c'est quelque chose qui, globalement, fait peur à tout le monde. Donc on en parle beaucoup. Finalement, il se passe assez peu. Il y a des gens qui bougent. Je pense qu'effectivement, c'est bien d'en discuter maintenant et d'essayer de mettre des choses en place, parce que c'est sûr que, comme le soulignait Jean-Claude, les choses vont probablement s'accélérer. Et j'insiste sur le probablement, parce que finalement, on n'en est pas sûr. On parle effectivement, on cite beaucoup les États-Unis comme exemple, parce qu'effectivement, on n'a pas d'autres référents que les États-Unis. Maintenant, il faut insister sur le fait qu'aux États-Unis, le maillage de librairies n'est absolument pas du tout le même que le maillage de librairies en France. Donc, ce qui aussi très probablement a accéléré le développement du numérique aux États-Unis. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et on est là pour en discuter.
Et alors, il n'y a pas eu que les livres. Parmi les choses qui maintenant sont très disponibles sur les liseuses et de ce côté-là, par exemple, l'iPad d'Apple est un exemple particulièrement parlant. Il y a effectivement les bandes dessinées, tout ce qui était comics américains. En plus, c'est pratiquement le même format Donc les gens ont l'impression qu'il n'y a pas trop de déperdition. Et il y a les nouvelles et les journaux. Et au point de vue bande dessinée, ça vous inquiète beaucoup, non? Parce qu'on voit une quantité de piratage absolument phénoménale.
Ça nous inquiète et ça nous excite. C'est toujours les deux. Hein. Je ne voudrais pas paraître trop rétrograde et ne parler que de la peur des auteurs. Mais c'est vrai que on sent en tout cas on sent qu'on est à l'aube de quelque chose de complètement neuf qui n'arrive qu'une fois tous les 200-300 ans, c'est-à-dire quasiment à une révolution culturelle d'us et coutumes de lecture. J'allais dire qu'à certains égards, il y a peut-être que l'invention de l'imprimerie qui se rapproche de ce qu'on est en train de vivre avec le numérique, à ce point de changer les habitudes de lecture. Alors ça, c'est très excitant. Maintenant, de même que l'invention de l'imprimerie a entraîné un certain nombre de changements professionnels, j'imagine que les moines copistes, par exemple, ont eu un peu moins de boulot. Je pense qu'il va y avoir des professions qui vont s'en prendre un peu plein la tête. Et chacun est en train de se demander si c'est sa profession. Donc c'est vrai qu'il y a une crispation aussi. Il y a un enthousiasme à l'idée qu'il puisse y avoir des nouvelles choses, des nouveaux modes de communication, des nouvelles façons d'envisager la narration. C'est vrai pour le livre dit de littérature, mais c'est aussi très vrai de la bande dessinée. Parce que par exemple, on voit apparaître des BD qui seront lus case par case sur un iPhone. C'est une nouvelle façon de lire une bande dessinée. Du case par case, on n'était pas habitué à ça. On était à la limite prêt à envisager le strip, c'est-à-dire trois cases qui se suivent. Mais le fait de lire une BD case par case, juste en appuyant sur l'écran, c'est une des nouveautés, mais c'est loin d'être la seule. Donc ça, c'est excitant. Ce qui est moins pour nous, c'est effectivement de se dire, si on va vers une bascule de la lecture vers le numérique, ce qui, comme ça a été dit, est loin d'être encore le cas, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'achats qui se font directement en ligne sur le numérique, mais un certain nombre d'études laissent entendre que peut-être d'ici, alors là c'est très flou, hein, mais d'ici 5, 10 ans, 15 ans, la part du marché de vente de livres en numérique pourrait être de 50% par rapport aux livres papier. Après, ces études, elles sont très floues, hein, parce que si ça se trouve dans 5 ans, ce sera tout de suite 50%, ou alors beaucoup moins, beaucoup plus. Tout le monde est en train d'être dans le brouillard là-dedans. Mais ce qui nous ennuie, nous, actuellement, c'est pas tant ce brouillard, parce que c'est normal qu'on soit tous à se demander, ça va être bien, pas bien, il faut réfléchir. Ce qui nous a fait réagir, et effectivement nous a fait un peu peur en tant qu'auteur, qui plus est auteur syndiqué, c'est que les contrats qui nous lient à la plupart de nos éditeurs, je veux pas tous les mettre dans le même panier, puisque chacun a sa politique, mais il y a quand même on voit quand même apparaître une espèce de schéma global, une espèce de intelligent design contractuel qui apparaît spontanément, qui nous semble assez défavorable aux auteurs. Pour la faire rapide, parce que c'est un peu technique, mais le discours qu'on entend le plus actuellement et qui nous pose question, c'est qu'on nous propose le même pourcentage de droits d'auteur sur les ventes pour le livre papier et pour le livre numérique. Pour la faire très rapide, ça veut dire qu'un livre papier, on touche actuellement à peu près 8% en moyenne du prix de vente. Donc si on vend un livre papier 10 euros, les auteurs toucheront 80 centimes, donc tous les auteurs du livre. Ce n'est pas toujours le cas, là encore je vous parle vraiment d'une espèce de moyenne pour aller plus vite. On nous propose actuellement de garder ce même pourcentage pour un livre numérique, ce qui va entraîner beaucoup de répercussions assez inquiétantes pour nous, à savoir qu'on l'a dit, le prix de vente en ligne ne pourra pas être le même qu'un livre papier. Je trouve ça assez normal de pas mettre, si j'achète un livre 10 euros, un vrai livre entre guillemets, je n'ai pas envie d'avoir une version numérique pour 10 euros. Même si je crois qu'aux États-Unis, ils ont parfois tenté, ou ils le font encore, de vendre des livres quasi au même prix.
Ils ont tellement, justement, c'est un phénomène intéressant, ils ont essayé de faire ça sur Amazon. Et mon ami Jean-Daniel Breck, qui est traducteur ici présent, signale que, par exemple, en France, le fait qu'on ait vendu le dernier livre qu'il a contribué à traduire pratiquement au prix du livre numérique a entraîné tellement de mauvaises critiques sur Amazon que les gens sont en train de changer leur politique en disant que c'est pas possible. Parce que là, les internautes protestent et râlent.
Oui, c'est ça. D'autant qu'il y a quand même aussi une habitude de gratuité sur le net. Tu l'évoquais avec l'éventuel piratage. Alors, le piratage, je vais mettre de côté pour l'instant, parce que c'est un débat assez long et que je n'y vois pas que des inconvénients au fait qu'une œuvre soit dispersée et lue. Mais je crois qu'on va l'aborder d'une autre manière. Mais donc ça va quand même entrer en jeu, bien entendu. Mais pour en terminer avec ces histoires de droits d'auteur un peu chiant, mais enfin il faut l'aborder parce que nous en tout cas ça nous fait flipper, donc on aime bien en parler. Si on garde cette idée qu'on a des 8% de droits d'auteur sur un livre qui est vendu deux fois moins, voire trois fois moins, c'est peut-être un effondrement des revenus des auteurs qui se préparaient dans les années à venir. Et qui plus est, au-delà de ça, on ne comprend pas actuellement que ça soit 8% sur le livre numérique, parce qu'on faisait pareil sur le livre papier. On ne peut pas entendre cet argument. 8% sur le livre papier, ça s'expliquait parce qu'il y avait un coût d'impression, de stockage, de diffusion du livre, enfin tout ce qui, que vous connaissez peut-être plus ou moins par rapport à ce qu'est l'industrie du livre. C'est-à-dire qu'il y a quand même donc un certain nombre de coûts qui sont liés à l'objet qu'on fabrique. Or, pour le numérique, je ne suis pas en train de dire que c'est gratuit parce que c'est immatériel. Bien sûr qu'il y a des coûts. Bien sûr qu'il faut aussi numériser, il faut trouver des manières d'adapter selon les écrans, etc. Simplement, on trouve un peu étonnant qu'on arrive par une espèce de miracle incroyable au même pourcentage de droits d'auteur dans les deux cas. Alors que ça, et là encore, on s'appuie sur d'autres études qui laissent entendre que le pourcentage pour les droits d'auteur d'un livre numérique pourrait être plutôt de, alors là ça va dépendre des études, mais de 20% par exemple, ou de 30%, sans aller jusqu'aux exemples de Apple qui propose, et ça c'est encore un autre exemple, qui a proposé à des auteurs de laisser 70% du prix de vente à certains auteurs.
Amazon le fait aussi. Hein.
Voilà, ou
tu
Amazon.
Mets ton livre toi-même sur Amazon, tu as 70%.
Voilà.
Mais au Canada, il y a une plateforme de vente. Alors il y a le Canada, c'est très bien organisé, il y a une seule plateforme de vente qui est pour tous les éditeurs. Et la rémunération des auteurs commence à 25%. Et elle est de 30% au-delà d'un certain niveau. Mais ça commence à 25%, en dessous, il n'y a rien.
Mais voilà, alors, et donc vous voyez un peu pour nous l'espèce de gouffre qui s'est ouvert sous nos pieds quand on nous a dit, allez, vous allez avoir 8%, et estimez-vous heureux, ça pourrait être 5, je cite texto ce qui m'a été dit, alors qu'on entend parler ça et là d'autres types d'exemples. Alors, je ne dis pas que tout ce qui est vrai ailleurs pourrait être vrai avec nous, mais enfin, ça nous laisse quand même assez perplexes. Et à la limite, quand bien même on ne se mettrait pas d'accord sur ce chiffre-là, on est tous d'accord que c'est dans le flou, que ça va nécessiter des investissements pour les éditeurs, donc c'est pas évident de savoir tout de suite comment rentabiliser cette opération numérique. Mais l'autre facteur qui nous rend très inquiets, c'est qu'on nous demande qui plus est de céder ces droits numériques sur la même durée que le livre papier, à savoir, au cas où vous ne le sauriez pas, notre vie d'auteur plus 70 ans après notre mort. Et ça nous angoisse un peu parce qu'on se dit un format, un nouveau média qui s'invente, dont on ne sait même pas à 3 mois près ce qu'il va devenir, parce qu'il suffit que débarque le iPad et il y a des nouvelles habitudes de consommation, débarque un nouvel outil technologique, il y a de nouvelles habitudes et un marché peut se créer en 2 ans, en 3 ans. On nous demande de céder nos droits, qui plus est avec un mauvais pourcentage à nos yeux, en tout cas non discutable. Donc ce qu'on demande actuellement, pour la faire très rapide sur le côté là encore très syndiqué, etc., c'est à minima de dire on voudrait qu'il y ait une durée de cession limitée dans le temps avec une tacite reconduction. Si on est content, si l'éditeur fait un bon boulot, etc., on peut continuer à bosser ensemble. Mais si au bout de cette durée, pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas 5 ans, si on n'est pas d'accord avec ce qui est fait ou qu'on trouve que ce n'est pas notre avantage, qu'on puisse récupérer nos droits numériques et aller voir un autre acteur de ce marché. Donc nous, on demande juste ça à la limite. Et si j'ai une durée de cession limitée dans le temps, je peux commencer à 8%, ce n'est pas très grave, je pourrais reparler de ça plus tard. Quoi. Voilà.
Alors, je voudrais briser tout de suite un lieu commun. Les auteurs n'ont pas peur du numérique. Les auteurs, j'ai commencé à faire du numérique en 1986 sur Minitel, j'ai fait une nouvelle sur Minitel, je me suis amusé comme un bossu. Le numérique ne fait pas peur aux auteurs. En revanche, effectivement, il fait peur aux éditeurs. Il fait peur aux éditeurs, et j'ai entendu tout à l'heure, il n'y a pas de marché. Pour l'instant, il y a un marché qui est en train de se développer. Nous ne savons pas ce que ce marché sera dans 5 ans. Et tout ce que nous demandons, c'est d'attendre pour avoir des conditions définitives, une période, 2, 3, 4 ou 5 ans, et d'avoir des contrats, des avenants à durée déterminée jusque-là. Et là, ce sont les éditeurs qui ont peur de voir partir leurs auteurs. C'est ce qu'ils nous répondent en permanence. Le numérique, pour l'instant, c'est un marché qui semble tout à fait accessoire par rapport à l'ensemble des livres. Il n'y a pas 1% des livres existants qui soient numérisés, qui soient disponibles sous format numérique. Par rapport aux livres sous droit, et commercialisés, il y a à peu près 10%. Les best-sellers, c'est à peu près 17%, et les best-sellers en piraté, c'est 27%. Donc moi, ce qui me ferait peur en tant que lecteur plus qu'en tant qu'auteur, c'est que si le marché se développe essentiellement sur les best-sellers, et c'est ça qui est en train de se faire, il y ait une concentration sur la proposition qui élimine les auteurs qui ont quelque chose à dire et les livres que les lecteurs ont envie de voir. Or, il y a un changement, il y a quelques changements fondamentaux dans le numérique. Le premier, c'est qu'on passe d'une économie de l'offre à une économie de la demande. L'économie traditionnelle, un lecteur va dans une librairie et une fois sur 5, il trouve le livre qu'il cherche. Les autres fois, il achète un autre livre. On sait que les librairies offrent et les lecteurs sont priés d'acheter. Pour une première fois, et ça réjouit les auteurs, l'ensemble de l'offre pourrait être disponible. Et de voir que cette offre se concentre tout à coup sur des best-sellers, c'est quelque chose qui est peut-être plus inquiétant encore que le prix du livre numérique et que la baisse des droits d'auteur. La baisse des droits d'auteur, c'est un fait pour l'instant. Lorsque j'entends dire qu'il y a une moyenne de 90 ventes par an, ni un auteur, ni un éditeur, ni un libraire ne peut y trouver son compte. Le numérique, pour l'instant, je dis, c'est à peu près 10% des livres disponibles qui existent également en numérique. Mais c'est 2,4% du marché. Ce qui veut dire qu'entre 10% des disponibles et 2,4% du marché de l'ensemble, il y a une baisse de 7,5%, une baisse de pouvoir d'achat pour l'auteur, pour l'éditeur, de revenus pour l'auteur, l'éditeur. Et si le numérique s'impose dans la même mesure, c'est-à-dire sur les mêmes proportions, avec 2,4% contre 10% d'offres, dans 5 ans, l'économie du livre est ruinée. Donc il y a autre chose qui va se mettre en place. Moi, je suis extrêmement confiant. Simplement, et là nous nous joignons tout à fait, je ne sais pas ce qui sera en place dans 5 ans, et je veux que dans 5 ans, nous puissions rediscuter les conditions d'un contrat, y compris en sortant. Et lorsque des éditeurs m'ont fait la remarque, je dis vous avez le risque de perdre un auteur, mais vous avez aussi en même temps la possibilité de récupérer un autre auteur. Un auteur qui récupère ses droits, ce n'est pas pour les mettre dans son tiroir, c'est pour les proposer à un autre éditeur. Nécessairement, nous serons chez un éditeur. Il y a des exemples, je pense qu'il y en a à côté, de livres auto-édités qui font des succès extraordinaires sur Internet. Ce sont des exemples extrêmement limités. Il y a 8000 livres auto-édités par an sur lulu.com. Il n'y a pas 8000 succès par an sur lulu.com. Donc, il y a une série de mythes autour d'Internet, mais les auteurs n'ont pas peur. Les auteurs attendent avec impatience le développement du marché numérique.
Alors, manifestement, vous n'avez pas peur. Moi, je connais des auteurs qui ont peur, très clairement.
Moi aussi.
Bon. Et moi, je suis le porte-parole de personne. C'est-à-dire que moi, je ne représente pas la corporation des éditeurs ici. Nous, à titre d'exemple, notre contrat sur le numérique, il dure un an. Voilà. Et nous, on propose 30% aux auteurs en droit. Voilà. Donc, moi, je ne défends pas telle ou telle position. Je vous explique juste ce qu'on fait et pourquoi on le fait, quoi. Donc, voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi énormément dans le numérique, et c'est ce que vous avez un petit peu abordé, surtout pour une littérature comme la science-fiction, qui se bâtit sur le fond, c'est la possibilité de mettre à disposition justement ce fond, c'est-à-dire des textes qui sont plus disponibles depuis des lustres et dont tout le monde en tout cas la plupart des éditeurs se moquent parce que ça représente de l'investissement, du stockage, etc., des coûts d'impression. Grâce au numérique, j'espère qu'enfin on va pouvoir mettre à disposition du public en tout cas une grosse quantité de textes, quoi, sur les classiques, sur les textes historiques fondamentaux importants dans l'histoire du genre. Donc ça nous intéresse énormément, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire aussi, parce que le numérique, ça offre des possibilités vraiment inédites. Nous, une des formes majeures de la science-fiction, c'est vraiment la nouvelle, c'est-à-dire les textes courts. Et il y a très très peu d'espaces éditoriaux pour les textes courts en France. Or, il se trouve que la plupart des textes qui, en tout cas, moi, en science-fiction, m'intéressent, ce sont des nouvelles. Et grâce au numérique, on va enfin pouvoir publier massivement des nouvelles, des textes qu'on va vendre 50 centimes d'euros, 1 euro. Donc très très peu cher, téléchargeable immédiatement, et ça c'est une vraie chance. Donc effectivement, il y a des bouleversements qui arrivent. Moi je suis encore une fois, je suis navré, mais il y a des gens que ça inquiète, vraiment, pas que les éditeurs. Nous ça ne nous inquiète pas, au contraire, c'est une chance. Et on est convaincu que de toute façon, c'est du positif, c'est-à-dire que c'est en plus, quoi qu'il arrive. C'est vraiment ce qu'on pense, quoi.
Je signale, puisque j'ai vu un grand bras se lever, qu'il y a au moins une revue entièrement numérique qui vient d'être créée, qui s'appelle Angle Mort, et qui publie justement des nouvelles, dont le premier numéro vient de sortir, et qui est disponible sur le site www.anglemort.fr. Donc ça, c'est à regarder. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la nouvelle est une chose formidable. Il y a aussi une chose que je voudrais signaler avant de te laisser la parole, c'est qu'il peut y avoir un événement déclencheur qui va obliger, entre quelque sorte, les éditeurs à avoir une véritable stratégie numérique. C'est si l'Europe, comme elle menace de le faire, et je pense qu'elle va bientôt le faire, sort un décret sur le poids des cartables. Auquel cas, désolé, vos gamins, ils iront à l'école avec une tablette numérique. Parce que si on vous dit que le cartable ne doit pas dépasser 2 kilos pour des raisons de déformation de colonne vertébrale, et croyez-moi, ce serait une bonne idée, eh ben, vous n'aurez pas la possibilité de trimballer des vrais livres. Vous trimballerez un petit iPad ou un truc dans ce genre-là. Et ça coûtera d'ailleurs même probablement moins cher pour les régions qui payent les livres scolaires pour les enfants, de leur payer une tablette qu'ils auront à trimballer pendant une partie de leur scolarité, plutôt que de payer des livres qui se renouvellent chaque année. Et ça, le jour où ça fait ça, je peux vous garantir que 5 ans après, vous avez toute une population de gens qui liront sur numérique. Et là, ça va aller très vite. Et ça, ça nous pend au nez.
Voilà, donc moi, je représente un exemple un peu différent de tous les messieurs qui sont rassemblés ici. Moi, j'ai commencé ma carrière littéraire par l'autopublication gratuite et ouverte à tout le monde sur mon propre site. Le bouquin intitulé « Maître 2033 » qui décrit Moscou et la Russie après une guerre nucléaire et dans ce monde, ceux qui restent de l'humanité s'hébergent et trouvent l'abri dans le métro de Moscou, qui est le bunker nucléaire le plus grand au monde, et c'est vrai. Donc voilà, c'était le texte et le concept. Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. J'étais rejeté par chacun d'entre eux. Il y avait une dizaine. Et la solution que j'ai trouvée, vu que déjà à l'époque, c'était 2002, il y a 8 ans, et ce n'est pas maintenant le début de l'ère numérique, comme les messieurs disent. Ça a commencé à un moment, au moins 10 ans. Donc déjà à l'époque, il y avait dans l'internet russe, il y avait beaucoup de librairies, des bibliothèques piratées. Et j'ai lisé des textes des écrivains occidentaux et russes sur l'internet il y a 15 ans. Et là, j'ai décidé si on peut publier les textes qui ne t'appartiennent pas, pourquoi est-ce que tu ne peux pas publier un texte qui t'appartient ? Voilà, je me suis publié, j'ai créé un site tout simple, j'ai mis tout le texte de ma nouvelle, de mon roman, sur le site, dans un accès ouvert. C'est toujours dans un accès ouvert. Après, j'ai fait 2-3 expériments avec le texte, je les ai rendus interactifs. J'ai complété des chapitres en consultant des lecteurs, en tenant compte de ce qu'ils pensent, que le texte doit se développer après. C'est devenu donc interactif. Après, pour la continuation de ce roman, après qu'il soit publié, j'ai invité des artistes pour faire des illustrations sur le site, en les payant bien sûr, ou des musiciens pour faire le soundtrack sur le site pour le bouquin. Donc je trouvais des façons. Tous les textes que j'ai publiés, pour l'instant j'ai 4 bouquins, et Maître 2033 ce n'est que le début, sont publiés gratuitement dans un accès ouvert sur leur site officiel où la communauté des lecteurs se ressemble et peut discuter et vivre le monde de ces bouquins. Ça n'a pas empêché aux ventes, contrairement à ce que la plupart d'auteurs pensent. Je pense que la distribution gratuite et ouverte de textes sur l'internet, ça contribue beaucoup et ça bouge beaucoup les ventes des exemplaires en papier. Parce que c'est après que le livre soit publié en accès ouvert, il est toujours là, il y a 2-3 millions de gens, je ne sais pas, 90 exemplaires, ce n'est pas beaucoup, mais 2-3 millions, juste pour le segment russe, c'est pas mal. Tenant compte qu'en général, il y a quelques 30 millions d'utilisateurs d'Internet, des surfeurs chez nous. Voilà, et donc après, il y a 500 000 exemplaires vendus, donc c'est-à-dire que chaque 100e, 7e des gens qui ont lu gratuitement, après, a eu assez d'intérêt pour le bouquin pour le chercher dans une librairie et l'acheter. Pour la monétisation et le financement, les aspects commerciaux, déjà, je pense qu'on arrive, et si on peut, surtout les auteurs des bandes dessinées, mais aussi les auteurs, dans une époque où on n'a pas vraiment besoin d'éditeurs, parce que comme vous savez, il y a des apps sur l'Apple Store, il y a des apps sur iTunes. On peut facilement, et d'une façon pas très chère, créer une application de bande dessinée, et encore plus facile, de texte, une liseuse intégrée, qui soit téléchargeable de iTunes Store, de App Store, et qui, en fait, c'est soit moi, soit un groupe d'auteurs qui se rassemblent ensemble, soit c'est les auteurs de bandes, les artistes qui font la bande dessinée, qui font soit une application pour toute la série ou pour juste un bouquin, et voilà, qui le font téléchargeable et accessible depuis leur site officiel. Et après, il ne faut pas partager, hein, c'est vous qui gagnez, et c'est vous qui partagez ce que vous gagnez entre vous. Et là, l'Internet, surtout, je pense, nous introduit à une époque où on n'a pas vraiment besoin de quelqu'un qui décide si ce texte ou si ces images doivent être publiées, s'ils méritent d'être publiés. C'est le public qui décide. Bien sûr que le public est influençable et les critiques souvent peuvent augmenter des ventes ou détruire le projet. Mais par contre, c'est toujours les lecteurs qui vont décider et se conseiller, c'est bouche à l'oreille qui fonctionne sur l'Internet. Encore mieux que dans d'autres endroits. C'est le lien. J'aime le texte, je t'envoie le lien. C'est comme ça que, en fait, j'ai eu des millions de visiteurs sur mon site. Les gens envoient des liens sur le site et après, ils ne doivent pas payer, ils ne peuvent pas télécharger non plus. Ils doivent lire le HTML, le texte publié sur le site. Et après, ils décident s'ils aiment, c'est la concurrence, c'est la compétition. S'ils aiment, ils s'achètent. S'ils n'aiment pas assez, juste conseillent à leurs amis. En plus, la Russie, c'est un énorme pays. La distribution de livres, ce n'est pas parfait. En France, j'ai entendu hier, il y a 25 000 de points de vente de livres. En Russie, en pays de 140 millions d'habitants, il y en a 3 000 de librairies. En plus, il y a des kiosques qui distribuent aussi. Mais bon, en plus, le prix d'un livre chez nous, c'est 10 dollars plus ou moins. Et ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment s'acheter un bouquin. Surtout pas les écoliers, pas les étudiants. C'est un public qui peut lire beaucoup, qui est prêt à lire, mais qui n'a pas l'argent de poche assez pour se payer un bouquin. Je me dis, bon, je m'en fous de 2-3 dollars, 2-3 000 dollars même, d'argent perdu. Je préfère que autant que possible d'argent d'enfants et des étudiants qui ne peuvent pas se permettre aujourd'hui lisent mes bouquins quand même. Et propage en fait le nom, le titre, l'idée, etc. En parlant de monétisation, alors revenons sur cette question-là. Il y a d'autres façons aujourd'hui pour gagner quand même l'argent, même avec les textes gratuits sur l'internet. Déjà, c'est les applications. Une application assez compliquée pour Apple, pour iPhone, qui comprend non seulement une librairie renouvelable dédiée seulement, par exemple, à mon projet. Le métro, le sequel, les bandes dessinées basées là-dessus. Après, il y a des continuations écrites par d'autres auteurs qu'on est rassemblés dans un groupe. On crée ensemble un monde imaginaire de l'année 2033. Voilà. C'est une application assez compliquée. Et le développement, ça coûte plus ou moins 6 000 euros. Ce qui est, d'accord, c'est un montant, mais on peut se réunir, financer, mettre cette application en distribution gratuite sur le site. Et tout le monde peut se télécharger, après suivre le développement et donc avoir des annonces s'il y a un nouveau bouquin qui sort et le télécharger tout de suite, pas payant 6 euros, mais payant 3 dollars par exemple, ouais, qu'on nous après va distribuer entre nous. Ça surpasse l'éditeur, c'est qu'il y a raison pour une angoisse pour les éditeurs, mais quand même c'est une façon pour le faire aussi. Après, il y a les terminaux de paiement, j'ai vu les trucs parés à